Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard Decaize.
Chers amis, bonjour, bienvenue dans Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Nous interrogerons Thierry Vasselet, le père de Benoît, tué à Dax il y a un an, et justement un an après, les mêmes émeutes dans la France. Ensuite, avec Joseph Touvenel et Laurent Izard, nous examinerons la faillite de Duralex, que la gauche avait montré comme étant une victoire. Eh bien, est-ce véritablement une victoire, maintenant qu'elle est en cessation de paiement et en redressement judiciaire? Ensuite, nous débattrons avec Abel Quentin de l'intelligence artificielle. Faut-il dresser des sanctuaires purement humains face à cette déferlante numérique? Eh bien, nous en parlerons avec lui. Et les chroniques, bien sûr, de Jean Hudgana, Arthur de Vatrigan, Alice Cordier, Ludovine de la Rochère et Jean Messia. C'est une matinée chargée. Et il y a plus d'un siècle, la Ligue des droits de l'homme était fondée. Aujourd'hui, elle s'occupe d'attaquer Bolloré et de pourchasser les croix sur le territoire français. Il est en 1958, De Gaulle expliquait « Je vous ai compris ». En 1989, toujours un 4 juin, c'était le massacre de Tiananmen. Autant dire que c'est un mauvais jour. Mais c'est pas grave, on va quand même parler un peu de l'actualité qui est moins morose avec Alice Meunier.
Chers auditeurs, hier au Sénat, revers cinglant pour le gouvernement sur la loi de programmation militaire, les sénateurs ont rejeté l'article central qui prévoyait seulement 36 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2030. Les Républicains réclamaient 50 milliards et ont finalement torpillé le texte minimaliste. Écoutez la sénatrice Nicole Duranton du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants.
La défense n'est pas qu'une affaire de militaires. Elle doit regagner une place de premier plan dans le débat public. Cette loi d'actualisation est donc une loi de cohérence avec le processus engagé depuis 2017 et renforcé en 2023. Mais elle n'est pas une nouvelle loi de programmation militaire. Mes chers collègues, gardons-nous bien d'y adosser des dépenses que nos engagements budgétaires ne sauraient soutenir.
Beau discours sur la résilience, dommage que ça vienne d'un camp qui a longtemps sous-doté les armées, car la prise de conscience est un peu tardive. Résultat, le gouvernement est dos au mur, le texte repart en navette parlementaire. Face aux menaces russes et à la montée des tensions mondiales, la droite sénatoriale refuse les demi-mesures. La France a besoin d'une vraie hausse des crédits de défense, pas de beau discours.
Ma transition tout à fait ratée. Et que se passe-t-il en Suisse?
Eh bien, à Saint-Gall, en Suisse, un projet de mosquée de 1000 mètres carrés agite fortement les esprits suisses. La communauté albanaise El Hadidaj, qui se présente comme bien intégrée, veut construire ce centre islamique en plein cœur d'une cité historique marquée par son héritage chrétien. Mais les députés de l'UDC, le parti nationaliste et populiste suisse, montent au créneau sans détour. Ils dénoncent une islamisation rampante qui menace les valeurs helvétiques, la neutralité, la culture chrétienne et l'identité suisse. Pour beaucoup de citoyens, ce n'est pas une simple affaire de culte, mais le symptôme d'une transformation démographique et culturelle que subit la Suisse, comme le reste de l'Europe. Malgré les discours sur l'intégration, les exemples de séparatisme et de revendications islamistes se multiplient sur le continent. L'UDC pose la bonne question, jusqu'où irons-nous avant de perdre définitivement notre pays? Les Suisses, attachés à leur démocratie directe, auront le dernier mot.
Et au Vatican, on poursuit la modernisation de l'Église.
Oui, le pape Léon XIV a nommé pour la première fois une femme laïque à la tête d'un dicastère, c'est-à-dire un ministère au Vatican, celui de la communication. Maria Montserrat Alvarado, mexicaine d'origine et dirigeante d'un réseau médiatique catholique américain, deviendra préfète du dicastère pour la communication dès novembre, une première historique qui rompt avec les 2000 ans de tradition où les hautes fonctions de la curie étaient réservées aux hommes d'église. Pour les tenants d'une église fidèle à son héritage, ce choix pose question. Est-ce une ouverture bienvenue ou le symptôme d'une église qui se féminise et se laïcise au risque d'éloigner l'institution de sa mission spirituelle originelle?
N'ayons quand même pas peur, il ne s'agit que du ministère de la communication et il y a eu de grandes abbesses et de grandes saintes dans l'Église catholique. Un nouvel objectif technologique pour l'Union européenne?
Eh bien oui, la Commission européenne a dévoilé hier son fameux paquet souveraineté technologique. L'objectif affiché est de réduire la dépendance massive de l'Union européenne aux États-Unis et à l'Asie dans le numérique. L'Europe importe chaque année près de 300 milliards d'euros de produits et services numériques autant que pour son énergie, plus de 80% des infrastructures, des nuages informatiques, des semi-conducteurs et des services sont contrôlés par des acteurs non européens, principalement américains. Bruxelles promet le triplement des capacités et en centre de données, un nouvel acte pour favoriser le Made in Europe et 200 milliards d'euros mobilisés essentiellement auprès du secteur privé. Belle intention sur le papier, mais ce plan arrive bien tard et sans surtout la bureaucratie bruxelloise, régulation kafkaïenne, quotas idéologiques et absence de vraie volonté de rupture avec les GAFAM. L'Europe qui a sacrifié son industrie sur l'autel du pacte vert et de la mondialisation heureuse pourra-t-elle rattraper des décennies de naïveté ? La vraie souveraineté passe d'abord des nations fortes, pas par une commission qui continue de diluer nos identités et refuse que la France se développe vraiment.
Voilà. Alors, quelle nouvelle de Roland-Garros ?
Eh bien, le numéro 1 mondial, Arina Sabalenka, est prise dans la tempête. Elle s'est fait balayer par la Russe Diana Schneider. Une élimination surprise dès les premiers tours pour la favorite.
Voilà. Et donc, la Russe affrontera l'Ukrainienne. Un petit mot
c'est
du
ça.
Temps ?
Eh bien, aujourd'hui, les nuages dominent du sud-ouest au nord-est avec des pluies éparses et un ciel ouvert. Côté température, nous attendons pour les maximales de 15 à 21 degrés sur la moitié nord et de 13 à 26 degrés sur la moitié sud, avec notamment 18 à Rouen, 20 à Paris et jusqu'à 26 à Narbonne. Et nous célébrons en ce 4 juin Sainte-Clotilde, Saint-Vincentine et Sainte-Ascagne.
Ben, merci Alice Menu.
Ligne droite.
Et on va enchaîner avec vous sur un décryptage qui nous parle de la manière dont l'argent public est joyeusement gaspillé.
C'est ça, donc chaque année, chers auditeurs, les Français entendent le même discours. Il faut faire des économies, réduire les dépenses, travailler plus longtemps et accepter toujours plus de prélèvements. Mais pendant ce temps, une immense partie de votre argent finance un système dont personne ne parle. Mais ne vous emballez pas si vous pensez qu'il finance le camp national, c'est raté. Déjà, selon l'INSEE, la France compte aujourd'hui près de 5,9 millions d'agents publics. Cela représente environ un employé sur cinq dans notre pays. À cela s'ajoutent 1,9 million de salariés associatifs, dont une part importante dépend directement ou indirectement de financements publics. Et justement, combien l'État verse-t-il aux associations ? La réponse est vertigineuse. Selon un rapport de l'Inspection générale des finances, les financements publics aux associations ont atteint 53,4 milliards d'euros en 2023, 53 milliards d'euros plus que le budget annuel de plusieurs ministères régaliens réunis, même si, vu ce qu'ils estiment bon à financer, on ne veut pas les plaindre. En tout cas, tout cela est public, tout cela est consultable grâce à la plateforme gouvernementale Data Subvention. Chacun peut vérifier quelles associations reçoivent de l'argent public. Alors regardons où va cet argent. Depuis les années Mitterrand, la gauche a progressivement construit ses bastions, non plus seulement dans les urnes, mais dans les, dans les structures financées par l'État profond. On y retrouve notamment
711 600 enseignants du public.
C'est ça. Des centaines de milliers de travailleurs sociaux, près de 589 000 salariés dans les associations humanitaires comme France Terre d'Asile, 361 000 dans l'hébergement social comme Sherpa ou CMAID et 152 000 dans le spectacle vivant, mais aussi des milliers d'acteurs gravitant autour de l'immigration, de la culture progressiste subventionnée ou de l'audiovisuel public. Le rapport de Charles Alloncle ne dira pas le contraire. Ce qui est certain, c'est que tous ces chiffres dessinent un écosystème mono-idéologique dont les revenus, les subventions, les emplois ou les budgets dépendent directement de la dépense publique. Et lorsqu'un secteur dépend de l'argent public, il a naturellement intérêt à défendre davantage d'État, davantage des subventions et davantage de dépenses. Vous comprenez mieux pourquoi les gauchistes sont à cheval là-dessus. Ils en profitent même allègrement. Puis je ne vous apprends sûrement rien, mais c'est la même logique dans l'audiovisuel public, financé par plusieurs milliards d'euros chaque année. Même logique dans une partie du monde culturel, même logique dans certaines grandes associations militantes. En parallèle, on recense également près de 2,5 millions de syndiqués, dont 1,1 million dans le secteur public, avec des organisations comme la CFDT, la CGT, FO ou Solidaire, qui continuent d'exercer une influence considérable sur les politiques publiques. D'ailleurs, selon le baromètre de l'économie du mois de juin, 62% des Français ont une mauvaise opinion des organisations syndicales en général, contre 38% qui en ont une bonne opinion. La CGT en tête de liste avec 62% de mauvaise opinion, on s'en doutait à peine. Au fond, la question n'est pas de savoir si tous ces gens sont de gauche, c'est évident. La question est de savoir pourquoi autant de secteurs financés par l'argent public, par l'argent de tous, semblent défendre systématiquement les mêmes idées. Plus d'immigration, plus de dépenses publiques, plus de normes, plus de redistribution, plus d'État. Le contribuable de droite, conservateur ou simplement attaché à la maîtrise des dépenses publiques finance donc parfois, sans même le savoir, des structures qui combattent directement ses convictions. Une réalité que l'on pourrait résumer en une phrase, la gauche ne tient pas depuis 40 ans seulement par ses partis. Elle tient aussi par un immense réseau d'institutions, d'associations, de syndicats et d'organismes publics financés par vos impôts et sciemment mis en œuvre par l'État. Alors, qui croit encore au pluralisme ? Si oui, vous avez une chance d'être déçu.
Ou déçu.
Ou déçu.
Merci beaucoup, Alice Meunier.
Ligne droite. Debout les Français.
Et dans Debout les Français, nous recevons Thierry Vasselet. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Alors, vous êtes le père de Benoît Vasselet, votre fils, qui avait 17 ans au moment où il a été tué à Dax le 31 mai 2025, en marge de la finale de la Ligue des Champions.
Oui, oui, c'est bien ça, oui.
Alors, votre fils a été tué par un multirécidiviste dont le prénom est Selman, donc qu'il a assassiné de plusieurs coups de couteau, qui s'est enfui, qui est venu se rendre à la police quelques jours plus tard. Il avait été aidé dans sa fuite par les camarades qui étaient avec lui à ce moment-là. Et depuis un an, vous remuez ciel et terre pour que Selman soit jugé.
Oui, c'est ça. Alors moi, je n'ai pas hésité avec le nom de famille parce que je m'en fiche de toute façon. Mais moi, donc Selman Ramović, voilà, donc c'est une racaille, voilà, donc... comme il y en a beaucoup en France, malheureusement, qui ne devraient même pas être sur ces terres, qui ne devraient même pas vivre. Donc, effectivement, il a assassiné mon fils pour un acte gratuit, pour une casquette qu'il a volée à Benoît, que Benoît voulait récupérer quelques jours plus tard. Et ensuite, ça a été quand même le premier mineur au monde, j'ai bien le premier mineur au monde, à être mis sur la liste rouge Interpol. Voilà. Donc, ensuite, il s'est échappé avec trois complices, oui, effectivement, mineur, et son père aussi. De QIS à Souston et de Souston Bordeaux, qui malheureusement ne peut pas être poursuivi parce qu'il y a le code d'immunité qui date de 45 qui protège les membres de la famille, parents, frères et sœurs. Donc voilà, donc elle est belle la France, donc c'est-à-dire qu'on peut aider à échapper son enfant et on ne peut pas être poursuivi. Pourtant, il est complice, le père. Voilà, donc il vit tranquillement, il est sous OQTF actuellement, plus pour violence conjugale et alcoolisme en plus. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, Benoît, ce soir, ne devait pas sortir au départ parce que la casquette, il était déjà passé à autre chose. Malheureusement, quand il voulait rejoindre ses copains ce soir-là, il est tombé sur l'assassin avec la casquette sur sa tête. Donc, quand même, provoqué de cette manière-là, on ne peut pas mieux faire. Et pour l'inciter à se battre, alors que Benoît ne voulait pas se battre du tout, il ne sortait pas pour ça. Il sortait pour passer un bon moment avec ses amis. Et ensuite, donc, c'est les complices de l'assassin et ses soi-disant copains, Benoît. J'appelle pas ça des copains, moi, parce que si ça avait été le cas, ils auraient plutôt empêché de se battre au lieu de l'inciter. Et alors, du coup, Benoît s'est retrouvé sous une pression énorme. Il est parti dans une ruelle, ils se sont battus, il avait le dessus parce qu'il fait la boxe aille depuis 2 ans. Et malheureusement, l'autre, il n'était pas venu ni pour lui rendre la casquette, ni pour se battre à la loyale, il était venu pour le tuer. Donc, il lui a mis 4 coups de couteau, un dans la côte, 2 dans le poumon et 1 dans le cœur. Et à ce moment-là, il a poignardé vraiment gratuitement, sans lui laisser aucune chance. Et puis, ça s'est terminé comme ça. Et ensuite, il s'est échappé, bien sûr, avec ses complices mineurs, qui sont sous brasse électronique, bien sûr. Pour moi, ça veut rien dire, c'est la rigolade parce qu'ils sont en liberté. Puis ensuite, il y a eu aussi les trois complices serbes aussi à Bordeaux qui l'ont hébergé pendant une semaine. Et pour le moment, il est en prison pour mineur à Pau, en envoyant des photos à ses copains de QIS à Dax, en marquant au-dessus de la photo « Liberté ». Voilà, donc, suite à ça, j'ai appelé le directeur de la prison pour lui demander si c'était normal qu'il envoie des photos en marquant liberté surtout, et qu'il avait, enfin, c'était normal qu'il ait un portable, et c'est là qu'ils m'ont répondu que non, que c'était un fléau, mais qu'ils étaient en manque de moyens, bien sûr, dans, comme dans tous les métiers, pour justement éradiquer ce fléau qu'ils ont du mal à maîtriser. Donc, à se demander si ce ne sont pas des complices qui travaillent au sein de la prison, des gardiens qui font entrer ce genre de portable, ou si ce sont des prisonniers qui sont très très malins pour les faire entrer. Donc, suite à ça, bon, ben voilà, écoutez, voilà, je vous ai raconté grosso modo l'histoire. Après, si vous avez d'autres questions, bah, écoutez, je...
Oui, parce que, donc, évidemment, c'est un drame qui vous a dévasté, vous, votre femme, et la sœur de votre fils, votre fille. Vous avez décidé d'organiser une marche blanche, et pendant cette année de souffrance, vous avez aussi insisté tant et plus auprès de la municipalité de Dax pour qu'il y ait une plaque qui soit apposée à l'endroit où votre fils a été tué.
Oui, tout à fait. Alors, donc, pour la plaque, c'était un combat de titans, hein, parce que ça a été très compliqué. C'est un peu aussi comme en France, l'administration française, toujours qui bloque, qui ralentit les demandes. Il faut 50 autorisations, 50 services. Enfin, bon, c'était très, très long. Mais j'ai réussi quand même, grâce à l'Institut de Thermalisme et l'Université de l'Académie de Bordeaux, qui se trouve dans la ruelle où Benoît est assassiné, où j'ai réussi à avoir affaire à des gens charmants et qui étaient vraiment très touchés par mon histoire, qui ont fait le maximum pour qu'ils puissent avoir l'autorisation. La plaque a été donc installée en début de semaine. Et par rapport à la marche blanche, effectivement, nous organisons une marche blanche samedi 6 juin avec un départ à 15h à la Fontaine Chaude, avec un petit tour dans les rues piétonnes, l'inauguration de la plaque, un petit discours de Monsieur le maire, Monsieur Dubois, et ensuite peut-être mon frère, une amie et moi-même, et ensuite il y aurait une soirée privatisée au pub au Mulligan, donc à Dax, un pub irlandais, uniquement pour les proches, famille et amis, donc de Benoît, ainsi que pour mon épouse, ma fille et moi-même, voilà, tous nos proches.
Monsieur Vasselet, donc évidemment, perdre un fils dans ces conditions, c'est un drame dont vous êtes pas remis, et j'espère évidemment que le temps fera son œuvre. Quel message aimeriez-vous faire passer à la mairie de Dax, à la police de Dax, et d'une manière plus générale, à ceux qui sont censés assurer la sécurité des Français en France?
Alors, au niveau de la police municipale de Dax et la police nationale de Dax, je n'ai rien à leur reprocher. Ils font du très bon travail, malheureusement en manque d'effectifs, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Par contre, oui, j'ai un gros message à passer à l'État français et à la justice française, qui est en dérive depuis 50 ans et qui laisse pourrir le pays de l'intérieur. On se demande s'ils ne cherchent pas une guerre civile entre les bons et les méchants. En fin de compte, ils sont dans l'incapacité, et bien l'incapacité, de protéger nos enfants. Pour moi, ces députés, ces sénateurs, ces ministres sont tous des incompétents depuis 50 ans. Et sans parler du guignol qu'on a à la tête de l'État, notre cher président Macron, qui ne font rien, je dis bien rien, même s'ils font semblant de faire, pour protéger les citoyens et notamment nos enfants. Donc je suis très en colère après eux, parce qu'en fin de compte, ils sont responsables, je dis bien responsables, de la mort de Benoît et tant d'autres de jeunes qui sont agressés mortellement régulièrement, chaque semaine on dira. Donc ils sont responsables parce qu'ils n'ont pas fait le boulot correctement. Le mineur était connu par la police pour 5 délits en 2024, qui n'est toujours pas jugé et condamné aujourd'hui. Et ensuite, le père, comme il était assigné à résidence, il était dans l'interdiction de voir son épouse et ses enfants, et ça n'a pas été contrôlé non plus. Donc pour deux raisons, défaillance de l'État et défaillance de la justice, Benoît devrait être vivant aujourd'hui.
Et effectivement, donc Selman était connu pour plusieurs délits comme port d'armes, trafic de stupéfiants, refus d'obtempérer, vol en bande organisée. Donc là, on sent qu'il y a de la part de la justice le choix délibéré de laisser en liberté des gens en fait dont la dangerosité est acquise.
Ah oui, bah tout à fait, vous avez exactement résumé la situation. On a l'impression qu'ils préfèrent les laisser en liberté que les enfermer et qu'ils continuent à violer, à tuer, parce que c'est le même problème pour les violeurs, qu'on relâche, alors que normalement ils n'ont rien à faire dans la rue, ils sont dangereux, mais j'ai un exemple récent là où de l'année dernière, je crois, un violeur qui était en prison pour deux raisons, il a été relâché parce que le juge et le psychiatre a décidé de le relâcher. Parce que sachant que pour eux, ils n'étaient plus dangereux. Et en fin de compte, ils l'ont relâché et il a violé et tué une fille. Donc maintenant, j'aimerais bien que les juges et le psychiatre aillent expliquer aux parents de la fille qui a été violée et tuée pourquoi ils ont relâché les violeurs, alors que normalement, il aurait dû rester en prison. Donc là, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même un gros problème dans notre pays. Donc je ne sais pas ce qu'ils cherchent, ce que cherche la justice, ce que cherche l'État, de laisser des gens comme ça, des déchets d'humanité, des pourritures, en fin de compte, des gens qui ne devraient même pas être sur Terre, et les laisser en liberté continuer à tuer, à violer, et j'en passe. Quoi. Donc, je ne comprends pas.
Le procès de l'assassin de votre fils est prévu pour l'année prochaine, je crois.
Oui, c'est ça, 2027 au plus tôt. Et peut-être 2028.
Et donc, à ce moment-là, Selman sera devenu majeur. Il avait 16 ans au début des faits. Donc, il est possible que Selman ne soit pas jugé en tant que mineur, puisque il est possible, quand le suspect est âgé de 16 à 18 ans, que l'exception de minorité soit levée, je crois.
Oui, tout à fait. Mon avocat m'en a parlé. Donc, pour l'instant, comme la loi n'est toujours pas votée, parce que bon, mes deux objectifs, c'est qu'il soit jugé comme un majeur, premièrement, et deuxièmement, qu'ils prennent 30 ans compressibles, parce que c'est la peine maximale, enfin, la perpétuité chez nous, mais c'est pas la perpétuité réelle, parce que comme aux États-Unis, étant donné que la Cour européenne des droits de l'homme l'interdit, et ça c'est bien dommage, donc ce qui fait que chaque pays ne peut même pas faire ce qu'il souhaite, voilà, c'est l'Europe qui commande, et ça c'est insupportable au niveau de la justice, et j'en passe concernant d'autres domaines, c'est le même problème. Et donc, du coup, là, concernant notre histoire, étant donné que la loi n'est toujours pas votée, eh bien, ça sera au cas par cas. Donc, ça sera le magistrat et le juge qui décidera si, oui ou non, il doit être jugé comme un majeur. Donc, il faut vraiment prier, comme on dit, très fort pour qu'il prenne la bonne décision. J'espère qu'on tombera sur un magistrat compétent, qui est soucieux de la sécurité de nos Français et soucieux d'une vraie justice et qui sera compétent et qui fera son boulot correctement. Parce que malheureusement, dans tous les métiers, il y a des incompétents, des laxistes et des gens bien. Voilà.
Eh bien, espérons aussi que vous tomberez sur quelqu'un de bien, comme vous dites. Monsieur Vasselet, dans cette année qui vient de s'écouler, dans l'année qui s'annonce après cette marche blanche, ce qui vous soutient, c'est le combat pour la justice, mais est-ce que vous trouvez ailleurs aussi un soutien dans des causes à défendre ?
Alors pour l'instant, les causes à défendre, j'ai peut-être au niveau des associations, avec quelques personnes proches, on va peut-être essayer de voir de créer de plus tard pour essayer de sensibiliser les jeunes justement de cette ultra-violence qui ne s'arrange pas, au contraire, qui s'empire de jour en jour. Dans les médias, l'année que nous avons vécue était un vrai cauchemar, était un enfer, quoi, quelque part. Pour mon épouse, elle a essayé de pouvoir s'exprimer pour essayer de se nettoyer la tête, comment dire, pour de ce parcours depuis un an qui est très compliqué dans le niveau des puzzles, de la télé, de l'écoute de la musique. Ma fille, c'est plutôt le sport, la musique, pratique, plus dessin, peinture. Et en ce qui me concerne, moi, je suis donc aussi musicien sportif, sauf que la musique, j'ai fait un break parce que j'ai pas du tout la tête à ça. Mais par contre, j'ai intensifié mes séances de sport où je fais à peu près entre 3 et 5 heures de sport par semaine. Plus un suivi psychologique. Voilà.
Bon, eh ben, Monsieur Vasselet, évidemment, toute notre condoléance et toute notre sympathie pour le meurtre qui vous a touché, vous et votre famille, et nous suivrons bien sûr l'évolution de cette affaire judiciaire. Merci et pas à bientôt, mais à un jour sur Radio Courtoisie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, il est 7h24, merci d'être avec nous. À 8h moins 10, Arthur de Vatrigan nous rejoindra pour parler avec Joseph Tounel et Laurent Izard, que nous recevons tout de suite maintenant dans ce grand entretien pour parler de Duralex et de le sort misérable qui lui a été réservé.
Ligne droite. Le grand entretien.
Bonjour Laurent Izard.
Bonjour.
Voilà, vous êtes l'auteur de plusieurs livres remarqués, La France à la découpe, ou À la sueur de ton front quand la mondialisation crée souffrance, chômage et insécurité. Voilà, au moins c'est clair. Je voulais parler avec vous et Joseph Toudel, qui nous rejoindra tout à l'heure, de Duralex, donc, qui a été placé en redressement judiciaire lundi 1er juin, par le tribunal de commerce. Alors, rappelons un tout petit peu les faits. Donc, en 2024, Duralex, donc, qui produit ces verres célébrissimes à travers lesquels nous regardions notre âge chaque fois que nous étions à la cantine, a été transformé en SCOP, une société coopérative et participative. La gauche entière se rue au chevet de Duralex pour parader avec Antoine Léaumin, ce phénix de l'économie, Lucie Castet, cette excellente directrice financière de la ville de Paris, et Antoine Faure, lui aussi. Et bref, toute la gauche en bleu de travail, c'est-à-dire déguisé en ouvrier pour bien marquer à quel point ils ont compris les codes. Donc vient au chevet de Duralex. Duralex reçoit des dons énormes, c'est-à-dire l'État avait versé 15 millions à Duralex en 2022. Il remet au pot un nouveau prêt consenti de 750 000 euros en 2024. La Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, la Socoden, l'État ont avancé 4 millions d'euros à la SCOP. La région double les 60 000 euros seulement investis par les salariés, consent une avance d'un million d'euros. On se retrouve aussi avec Orléans Métropole qui acquiert le site de Duralex pour une somme de 5,6 millions d'euros. Donc, autrement dit, cette aventure entrepreneuriale de salariés, saluée par la gauche comme étant enfin le moment où on va arracher au capital vagabond et avide un outil de travail pour le rendre aux salariés, c'est d'abord une masse énorme d'argent public. Bonjour Joseph Tounel, investi dans dans cette entreprise. Et l'entreprise, donc, entre 2024 et 2026, ne réussit pas son pari de se redresser. Et au contraire, elle explique qu'il y a des problèmes, qu'elle n'arrive pas à soutenir, en fait, les coûts de production, l'énergie ayant augmenté, et qu'il y a aussi des ruptures de stock, trop de stock sur certaines références et des ruptures de stock sur les références les plus demandées. Alors, que penser en fait de cette affaire Duralex ? Est-ce que cela remet en cause le modèle des SCOP ? Est-ce que ça remet en cause le génie politique de Marine Tondelier, Antoine Léaumin et Lucie Castet ? Voilà. Quelles leçons peut-on en tirer ?
Alors, première chose, ce n'est pas la première fois que Duralex vacille. Il y a eu déjà plusieurs cessation d'activité, plusieurs dépôts de bilan. C'est une entreprise qui a connu son heure de gloire dans les années 60-70. C'est une entreprise qui bénéficie d'un fort capital de notoriété. Hein. Duralex est connu jusqu'aux États-Unis. Elle est présente au Museum of Art américain. C'est une entreprise qui bénéficie aussi d'un certain capital sympathie, hein. Comme vous l'avez très justement rappelé, c'est l'entreprise des cantines, hein, des verres de nos cantines. Et malheureusement, c'est une entreprise qui n'a pas su adapter son modèle économique. Depuis les années 1980-1990, en réalité, l'entreprise est en difficulté. Elle a changé de propriétaire à plusieurs reprises. Bref, voilà, c'est une entreprise qui est en difficulté, qu'on a voulu absolument soutenir, et vous avez très justement rappelé qu'elle a bénéficié d'investissements publics très importants. Alors, on a cru que la SCOP, c'était le modèle miracle, si vous voulez, qui permettrait de sauver l'entreprise. Mais le problème, c'est qu'une entreprise, vous voyez, ce qui est important, c'est pas seulement son mode de gouvernance et la façon dont elle est dirigée. Ce qui est important, c'est avant tout la viabilité du modèle économique. Vous voyez, c'est ça qui est essentiel. Or, lors de la reprise par la SCOP, il y avait un choix important à faire. Soit on continuait dans la lignée actuelle, c'est-à-dire une production de masse, une volonté de ne pas augmenter en qualité, de garder les clients traditionnels, c'est-à-dire les administrations publiques, les bars, les restaurants. Alors, cette stratégie, c'est celle qui a été finalement adoptée, et elle n'était pas viable, parce que Badur-Aglaé fait face à une concurrence étrangère, chinoise, turque, et puis plus récemment Ikea, qui fait que aujourd'hui, dans un contexte économique difficile, eh bien, les clients potentiels que j'ai cités préfèrent se tourner vers ces entreprises étrangères. Alors, l'autre possibilité, ça aurait été une montée en gamme, ça aurait été un investissement supplémentaire, se tourner vers des cibles plus profitables, si vous voulez. Mais à ce moment-là, il aurait fallu investir davantage et il aurait fallu licencier une partie du personnel. Et ça, c'était tout à fait, ça entrait en contradiction, si vous voulez, avec le modèle idéal de la SCOP défendu par la gauche.
Alors, Joseph Touvenel, voilà. Donc, on a résumé à grands traits l'histoire de Duralex en insistant donc sur tout l'argent reçu par l'État. Je n'ai pas parlé des 7 millions d'euros qui avaient été collectés auprès des Français, puisque Duralex avait en novembre 2025 lancé une souscription, enfin une cagnotte. Que pensez-vous, d'une part, du modèle de la SCOP ? Enfin, d'abord, que pensez-vous de ce qui se passe chez Duralex en ce moment ? Et que pensez-vous, plus généralement, du modèle de la SCOP ?
Alors, d'abord, ce que j'ai entendu était plein de bon sens et me paraît absolument exact sur l'affaire Duralex. Si on est attaché à un bien qui représente un bien national, on a envie de le défendre. Et Duralex, c'est un peu le cas, parce que c'est aussi notre histoire industrielle. C'était très innovant à une époque. Sans doute qu'un des problèmes de Duralex, c'est d'avoir cessé toutes les innovations. C'était quand c'est sorti, des verres quasiment incassables. Et puis ensuite, il y a les problèmes de gestion. C'est très intéressant. Depuis que Saint-Gobain a laissé Duralex en 1970, cède la marque à des Italiens. Et là, c'est la vague des actionnaires, ça n'arrête pas de changer. C'est-à-dire qu'une entreprise, d'autant plus une entreprise industrielle, elle a besoin d'une réflexion pérenne. Et non pas de changement d'actionnaire, de changement de pied tous les ans, tous les deux ans, etc. En cinq ans, c'est le cinquième redressement judiciaire. C'est-à-dire que la responsabilité appartient pas à la SCOP ou aux sociétés anonymes. C'est pas la forme de l'entreprise qui fait que Duralex est en difficulté. Certains ont sans doute rêvé que la SCOP, c'était quelque chose de magnifique. La SCOP, c'est comme toutes les entreprises, c'est une forme d'entreprise, une forme de management qui peut être performant ou qui peut ne pas l'être.
Je voudrais citer le député insoumis Thomas Porte. Un an après le passage en SCOP de Duralex, l'entreprise redresse la tête avec une progression de ses revenus de 22% cette année. Les entreprises doivent être entre les mains des salariés, loin des patrons inutiles qui ne pensent qu'à se gaver.
Mais un patron, c'est aussi un travailleur, c'est ce qu'a l'air d'ignorer. Mais enfin, si ce député dit insoumis, parce que c'est un député totalement soumis à la mode du temps, connaissait le monde du travail, il saurait qu'un patron, c'est un travailleur au même titre qu'un salarié. Ces gens sont des travailleurs, ils travaillent, mais il faudrait revenir sur la valeur travail. Oui, la SCOP, c'est pas un miracle, c'est sûr, mais il y a des SCOP qui réussissent. Hein. Regardez les chèques déjeuner, ce qu'on appelle UP, maintenant, pour être à la mode. Ça s'est développé, c'est dans 30 pays au monde, 3751 salariés, chiffre d'affaires de 843 millions. Donc il y a des SCOP qui réussissent et d'autres qui sont en échec, comme il y a des entreprises qui réussissent et d'autres qui sont en échec. Sur Duralex, ça pose globalement le problème de notre industrie, de notre outil industriel, et notamment de la concurrence internationale. Duralex, ils ont en direct la concurrence de tous les pays qui ont une énergie à faible prix. Avantage de la France, nous produisons une énergie à faible prix. Problème, nous sommes enfermés dans des règles européennes qui nous font payer, nous consommateurs ou les entreprises, le prix de l'énergie bien plus qu'on ne le produit. Ça fait des années que l'ensemble de la classe politique, à part quelques doux rêveurs, nous disent « Ah ben c'est tout à fait normal, 2022, le président Macron, comme il en a l'habitude, a fait des grandes déclarations en disant « Mais c'est insoutenable ce prix de l'énergie, il faut sortir de ces règles ». On est toujours dans ces règles absurdes. Le coût pour Duralex de ces règles absurdes est absolument considérable. Ça explique peut-être pas tout. Duralex, tout à l'heure, j'entendais...
Oui, mais quand même, vous avez raison, Joseph Sounel, de le signaler. Voilà, produire du verre, c'est une consommation d'énergie très forte. Les fourneaux sont chauffés à des températures
très élevées,
qui permettent de faire fondre le sable. Donc, autrement dit, c'est un peu plus qu'une bougie. Et comme toutes les entreprises, le coût de l'énergie représente 10, 20, 30, 50% du produit final. Et donc, évidemment, si le coût de l'énergie s'envole, le coût de revient s'envole lui aussi.
Et pour Duralex, ce n'est pas notre, mais c'est pas le même souci. Dans les principaux concurrents ont été cités deux, à juste titre, la Chine et la Turquie. La Turquie, il faut se rappeler que Duralex avait eu un repreneur turc, un escroc, qui avait envoyé en Turquie des moules, c'est-à-dire ce qui permet de fabriquer des machines, plus je ne sais plus combien de containers de stock de verre, dans les proportions énormes, qu'il avait lui-même fait racheter en Turquie à 20% de leur valeur. Ce qui permet aujourd'hui aux Turcs de produire ce qu'ils nous ont volé.
Ils produisent ça, même produit, c'est ça qu'il faut dire.
Absolument.
Enfin, le même produit. En tout cas, la même forme sur les mêmes machines. Après ça, on ne sait pas si le verre est de la même qualité, mais...
Absolument, mais quand même, les moules, les machines, plus des dizaines de containers envoyés en Turquie rachetés à 20% de leur valeur. Alors, quand je dis cet homme, il a été condamné par les tribunaux français, il s'en moque totalement, il vit royalement en Turquie, plus des détournements financiers via Dubaï, par le même homme, actionnaire principal, patron. Et ça, c'est un des gros problèmes aussi qu'il y a eu à supporter.
La France n'ayant pas pris de mesure pour interdire les importations des produits de l'entreprise de cet homme.
Alors, quand vous dites ça, c'est que vous avez une certaine notion de la souveraineté nationale, ce qui, dans le monde des affaires, est quelque chose de plus en plus absent. Et quand j'entends des patrons français, des politiques français, venir chouiner sur les difficultés de notre industrie, mais les mêmes qui défendent la mondialisation heureuse, comment peut-on avoir une mondialisation heureuse dans les affaires quand on n'a pas les mêmes règles du jeu, quand on a une concurrence qui pour moi est déloyale en matière environnementale, en matière sociale, en matière fiscale? Ce n'est pas possible. Ces gens-là ne s'en rendent pas compte, ou plutôt ne veulent pas s'en rendre compte, parce qu'ils ont des petits intérêts immédiats. Et quand on veut avoir une politique industrielle, ce n'est pas les intérêts immédiats qui comptent, c'est une vision à long terme.
Laurent Izard, Joseph Sounel a rappelé donc la longue succession, vous-même vous l'aviez évoqué, de ceux qui ont possédé Duralex, et c'est exactement le sujet de votre livre sur la France vendue à la découpe. C'est-à-dire, on a laissé les investisseurs étrangers acheter des entreprises françaises et ensuite les piller ni plus ni moins sans s'inquiéter en fait des conséquences sur l'emploi, sur l'innovation, sur la propriété intellectuelle.
Monsieur Touvenel a très bien rappelé la problématique qui concerne effectivement de très nombreuses entreprises françaises. Effectivement, à partir des années 70, 80, 90, et puis avec une accélération au 21e siècle, on a vu de très nombreuses entreprises françaises rachetées par des investisseurs étrangers. Je dirais que pendant très longtemps, l'idée de souveraineté économique, c'était un gros mot. Il ne fallait surtout pas en parler. Il fallait laisser totalement fonctionner les règles du marché, les règles de l'Organisation mondiale du commerce, que nous respectons globalement, alors que nos concurrents américains ou chinois les respectent beaucoup moins. En réalité, on pourrait prendre de très nombreux exemples. Alors, effectivement, c'était un peu l'objet de mon livre, de montrer que de très nombreuses entreprises françaises passaient sous contrôle étranger. Aujourd'hui, les choses ont un tout petit peu évolué quand même. C'est-à-dire que au niveau de l'Union européenne, on a commencé un tout petit peu à évoluer, et la Commission européenne recommande maintenant aux différents États de l'Union de prendre des mesures pour éviter la grande braderie des entreprises stratégiques. C'est déjà un premier pas. Et en France, on a une procédure qui s'appelle la procédure IEF et qui permet à Bercy de contrôler les acquisitions d'entreprises stratégiques françaises par les investisseurs étrangers. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la prédation de nos entreprises, ce n'est pas le seul vecteur, le seul moyen, si vous voulez, de perte de contrôle de notre industrie, de notre économie. Je voudrais vous prendre un exemple concret. Aujourd'hui, l'industrie automobile française, qui a été un pilier de notre économie, de notre industrie, est en train de vaciller, très clairement. Alors, vous savez, c'est très curieux parce que quand vous parlez à des personnes dans la rue, ils vous citent leur voiture, c'est une Citroën, c'est une Renault. Citroën et Peugeot ont fusionné, ça a donné Stellantis, et puis il y a une fusion avec Fiat. PSA d'abord, Stellantis ensuite. La réalité, c'est quoi aujourd'hui? La réalité, c'est que le principal actionnaire de Stellantis est italien. Le siège est à Amsterdam. Le président de Stellantis est plus souvent à Detroit aux États-Unis qu'en Europe. En fait, le centre de gravité s'est complètement déplacé vers les États-Unis. Alors, vous voyez, l'investissement dont on a parlé à Mulhouse très récemment, c'est très bien, mais on ne bâtit pas une politique industrielle mondiale d'un groupe à coup d'investissement ponctuel dans une usine française. La réalité aujourd'hui, c'est que notre industrie automobile est totalement submergée par la concurrence chinoise. Vous voyez, avec des entreprises qui commencent à être connues, BYD, Geely, Leap Motor, Dongfeng, GM. Ces entreprises sont en train de capter le marché français et, comme l'a reconnu le Sénat dans un récent rapport, les voitures chinoises sont aujourd'hui d'une qualité équivalente, peut-être davantage innovante, par rapport aux voitures européennes, avec des prix qui sont 30 à 40% inférieurs. Donc, on voit bien que sur le plan concurrentiel, nous ne tenons plus la route. Alors, l'Union européenne a essayé timidement de mettre quelques barrières protectionnistes. Moi, j'y étais pas opposé personnellement, parce que effectivement, quand dans un marché, vous voyez qu'on n'est pas à égalité, il faut savoir sectionner un petit peu ce marché. Seulement, le problème, c'est que nos concurrents chinois ont trouvé la parade. Et aujourd'hui, ils investissent massivement dans des usines au sein de l'Union européenne. Voilà, il y a une grande usine BYD en Hongrie, il y a un accord qui vient d'être passé avec l'Espagne, et puis Dongfeng va produire des voitures dans les usines Stellantis, vous voyez. Donc, on voit bien aujourd'hui que on a un vrai problème industriel, et Duralex en est une illustration, malheureusement, mais c'est l'ensemble de notre industrie française qui est menacée aujourd'hui.
Joseph Touvenel.
Oui, on a un vrai problème industriel qui s'accroît, mais qui n'est pas nouveau, parce que le PIB de l'industrie dans les années 60, c'était plus de 28%. Aujourd'hui, c'est 13%. Donc on voit très bien que la chute... Là, mais à la limite, il faudrait poser la question du pourquoi. Pourquoi se battre pour avoir une industrie alors que les hommes sont fongibles? Après tout, s'il n'y a plus de boulot en France... Eh ben, déplaçons-nous à l'étranger, là, au lieu du boulot.
Mais oui, il n'y a qu'à traverser la rue.
Ça gêne qui? Dans toute la doxa mondialiste. C'est naturel. Après tout, c'est le marché qui règle le tout. La loi du marché est la plus forte et la meilleure. Déplaçons-nous avec le marché. Sauf si on a une autre vision. Ça, c'est une vision mécanique et matérialiste de l'être humain. Et donc, qui devient un outil au service de la production et de la consommation. Soit on a une autre idée de l'être humain et de la vie sociale appuyée sur la nation, un destin commun, attaché à un territoire. Et dans ces cas-là, on se bat effectivement pour maintenir un outil de travail performant dans la durée sur le territoire. Mais si je suis mondialiste, si je suis pro-européen, alors moi je suis pro-européen parce que je suis européen, il se trouve que français, je suis européen depuis très longtemps, la preuve par Charlemagne. Mais je ne suis pas
bruxellois. J'ai l'impression qu'on n'est pas en train de parler de la même Europe que celle d'Ursula von der Leyen.
Voilà, je ne suis pas bruxellois. Je note d'ailleurs que les efforts qui sont faits par la Commission européenne pour défendre l'industrie automobile sont sans doute faits pour défendre l'industrie automobile allemande, haut de gamme, beaucoup moins pour défendre les autres, et ça a été dit à juste titre. Les Chinois, ouais, qui sont malins, qui sont corrompus jusque... Il faut savoir que c'est une dictature où c'est la corruption qui règne avant tout. Donc quand on unit les règles du marché, la liberté du marché, vaste rigolade en Chine. Il n'y a aucune liberté du marché. Les grandes entreprises sont contrôlées par le Parti communiste et par les généraux de l'armée chinoise. Donc pour la liberté d'entreprendre, c'est pas ça. Stellantis, effectivement, ça a été dit, Stellantis se réjouit de maintenir des emplois en fabriquant des voitures chinoises sur notre territoire à côté de Paris. C'est un échec flagrant. Alors, où on se reprend en disant « nous avons des intérêts de souveraineté » pour maintenir des emplois sur notre territoire dans le long terme, ou alors on est parfaitement mondialiste, et dans ces cas-là, bah, c'est la porte ouverte, déplaçons-nous en fonction des flux. Quand j'entends le patronat, enfin une partie d'ailleurs, pas tout le patronat heureusement, une partie du patronat qui dit « on a vraiment besoin d'immigration parce qu'on manque de bras », me vient deux choses à la tête. On nous dit que l'intelligence artificielle va supprimer des centaines de milliers d'emplois. Donc qu'est-ce qu'on fera de cette main-d'œuvre une fois qu'on l'a fait venir, si elle n'a plus d'emploi? Et deux, mais nous avons 5 millions de personnes inscrites à ce qu'on appelait Pôle emploi à France Travail maintenant. La priorité, ce n'est pas de trouver du travail pour ceux qui sont déjà chez nous. Et ça passe sans doute par améliorer dans un certain nombre de secteurs les conditions de travail et les salaires. Ça veut dire que dans ces cas-là, je dois faire des économies quelque part, mais je dois aussi cesser de tolérer cette concurrence déloyale, parce que demain, si je laisse faire et si je suis un investisseur normal, mais pourquoi je vais investir pour ouvrir une usine en France alors que je peux le faire par exemple en Bulgarie, où je peux vous assurer, je connais un peu la Bulgarie, qu'au niveau social, vous n'aurez pas grand-chose. Au niveau règle environnementale, vous n'aurez pas grand-chose. Au niveau fiscal, vous n'aurez pas grand-chose, si ce n'est quelques valises sous la table pour les potentats au pouvoir. Voilà la concurrence que nous vivons et qui est tolérée depuis des dizaines d'années.
Laurent Izard, dans le tableau effrayant de la mondialisation heureuse que Joseph Tounel a dressé, effrayant mais véridique, on voit bien que la France part avec des boulets aux pieds et que, bien sûr, on peut se douter que les gens, ce n'est pas parce qu'on devient du jour au lendemain membre d'une société coopérative et participative qu'on devient un bon directeur de l'innovation, qu'on devient un bon directeur marketing, qu'on devient un bon directeur financier, mais on a surtout affaire avec une masse réglementaire absolument effrayante. On a affaire à une lenteur administrative absolument effrayante. Les investissements étrangers dont Emmanuel Macron se gargarise commencent, se détournent en fait de la France. Il y en a 17% en moins que l'année dernière, précisément à cause de la lenteur d'instruction des dossiers, à cause de la difficulté d'avoir du foncier disponible. Donc autrement dit, peut-être Duralex est-il victime d'un enthousiasme gauchiste pour l'élimination du capital, sans pour autant que les compétences managériales aient été acquises, mais sans doute aussi Duralex est-il victime de l'État français lui-même, qui prétend néanmoins vouloir le soutenir, puisque Roland Lescure, qui est capable de laisser crever des dizaines de milliers d'entreprises, dit qu'il veut continuer à aider cette entreprise emblématique. Donc autrement dit, on est en pure macronie, c'est-à-dire quand quelque chose brille, on va courir à son secours, si on est dans l'ombre, on peut disparaître.
Alors,
question un peu longue.
Par principe, je pense que l'État n'a pas vocation à soutenir sur le long terme des entreprises qui ne sont pas viables. Ce n'est pas le rôle de l'État. Il y a des organismes qui fonctionnent très bien, BPI France, l'Agence des participations de l'État, qui peuvent ponctuellement prendre des participations, soutenir ponctuellement des entreprises, surtout si elles présentent un intérêt particulier, un intérêt stratégique. Mais dans le cadre du Duralex, c'est un petit peu différent, parce que ce qui a été soutenu, c'est pas une entreprise particulièrement importante. Ce qui a été soutenu, c'est le symbole, si vous voulez. Et le symbole, c'est important en économie, mais il y a aussi tout le reste. Il y a les coûts, il y a la concurrence, il y a la compétition, il y a les charges, il y a le réalisme, si vous voulez, économique. Voilà. Alors, vous l'avez très justement rappelé, en France, c'est vrai que nos entreprises traînent un certain nombre de boulets au pied, des contraintes administratives très lourdes, européennes, mais aussi françaises, des coûts de production qui sont plus élevés. On avait évoqué l'énergie tout à l'heure. Bah oui, c'est un vrai problème, l'énergie, hein, et pas que pour Duralex avec ses fours à 1500 degrés. On produit une électricité très peu chère et nos entreprises achètent leur électricité très chère. Il y a quand même un vrai problème français, là. Voilà. Et puis, j'ajouterai une chose. Au-delà, je dirais, des contraintes françaises de coûts de production, les contraintes des normes, les contraintes sociales, il y a aussi un autre aspect qui est trop souvent ignoré. C'est que les entreprises chinoises qui nous concurrencent aujourd'hui maîtrisent l'ensemble du processus de production, de la chaîne de production, ce qu'on appelle aussi la chaîne de valeur, si vous voulez. Quand on regarde une entreprise chinoise, je prends l'exemple de l'automobile, on peut continuer, elle va, démarrer depuis l'extraction des matières premières qui vont servir à fabriquer les batteries. Elle va fabriquer les batteries. Elle va s'occuper de l'assemblage. Elle va s'occuper ensuite de la commercialisation. Vous voyez, l'ensemble de la chaîne de valeur est maîtrisée. Alors qu'en France, depuis fort longtemps, nos entreprises ont préféré se centrer sur un certain nombre de points en abandonnant à la concurrence, souvent étrangère, certains éléments de la chaîne de valeur. Et là, on voit que ça nous rend dépendants et on voit qu'en réalité, le modèle économique aujourd'hui en souffre énormément. Le basculement, je dirais, à marche forcée vers le tout électrique, pour moi, a constitué, je dirais, le coup de grâce qui est en train d'être infligé à l'automobile française. Alors ça, c'est un élément dont on parle pas suffisamment, à mon avis, mais c'est un élément central. Si vous voulez, pour revenir plus généralement à la question industrielle...
Alors, il nous reste une minute avant la chronique d'Arthur Vatrigan.
Donc, juste en une minute. Moi, je crois qu'il y a une chose très, très importante. C'est que la souveraineté économique... est une condition de la souveraineté politique. Si vous voulez, si nos dirigeants doivent prendre leurs décisions en fonction des contraintes économiques qui nous sont imposées par le reste du monde, nous ne sommes plus souverains. Et là, il y a un vrai problème qui dépasse totalement le simple problème économique.
Merci beaucoup, Laurent Izard. Merci beaucoup, Joseph Tounel. Restez avec nous. Et nous allons passer ensuite à la chronique de Arthur de Vatrigan.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Arthur.
Bonjour Richard.
Alors, je crois que vous voulez nous parler ce matin de Maurice Dantec, qui lui aussi est d'une certaine manière prophète de l'apocalypse, non pas industriel mais général.
Ah bah pas que d'une certaine manière, il était vraiment prophète. Alors pour deux raisons. Première raison, parce que l'incorrect fait sa une dessus, ce qui est quand même une excellente raison. Mais surtout, c'est parce qu'en fait, il est mort il y a 10 ans, presque jour pour jour, de vieillesse à 57 ans. Et l'écrivain est depuis 10 ans au purgatoire. Alors, pour ceux qui le connaissent peu, son nom évoque l'excès, l'écrivain sulfureux, difficile à classer, un peu controversé, mais en fait, il a été très simplement un romancier rare parce qu'il a fait rentrer la littérature dans l'énergie, le danger, l'électricité. Alors, rapide biographie, il est né en 59 près de Grenoble, mais il grandit à Ivry-sur-Seine, banlieue rouge, où le communisme va faire partie du décor familial parce que son père est un journaliste communiste, donc communiste intellectuellement, et sa mère vient d'un milieu très populaire, et à cette époque, les ouvriers votaient non pas RN, mais Coco. Et ce détail compte pour la vie pour Dantec parce que ça va faire partie intégrante de sa vie. Il va essayer de s'en détacher de cet héritage politique et même violemment à tel point qu'il va épouser toutes les causes américaines, même les invasions en Irak, même l'OTAN, par anticommunisme. Donc il a vraiment été façonné par ça. Alors, c'est un adolescent qui lit beaucoup. Il est repéré par Jean-Bernard Puy, futur grand nom du polar français. Il fait même une partie de son collège avec lui. Mais il commence pas par la littérature, Dantec. Il commence par le rock. Il joue dans différents groupes, notamment Artefact. Il fera même un concert à Montréal avec Michel Houellebecq en 2000, ce qui devait être assez amusant, mais à l'époque, on ne filmait pas encore les concerts en smartphone. Résultat, il n'y a plus une seule trace. C'est assez dommage. Et ce passage n'est pas anecdotique du tout, parce qu'il va écrire comme il entend du rock. C'est-à-dire que la phrase doit cogner, doit saturer, ça doit produire un choc. Après un passage par la pub, là, il va commencer à écrire et il envoie un premier manuscrit aidé par Jean-Bernard Puy, donc qu'il connaissait depuis le collège, et Patrick Crénal le publie dans la série Noir de Gallimard. Pour un premier roman, c'est quand même pas mal. Et donc, pareil, en 93, La Sirène Rouge, un polar très cinématographique, très violent, très road movie, est déjà traversé, en effet, par une vision presque apocalyptique, en tout cas très sombre de l'Europe occidentale. Mais le vrai choc, en fait, arrive 2 ans plus tard, quand il publie Les Racines du Mal, probablement son chef-d'œuvre, parce que là, il explose tout. C'est-à-dire qu'il publie peut-être le premier roman transgenre. Alors, dit aujourd'hui, ça peut faire bizarre parce que le mot était dévoyé, mais il est question de tueur en série, il est question d'une enquête, il est question de thriller, mais aussi de l'intelligence artificielle. On a quand même droit à une mise en scène du premier ChatGPT en 95, c'est quand même pas mal. De la psychiatrie, de la technologie, de la philosophie, une réflexion sur le mal, d'où le titre, évidemment. Et sur la violence. Et le roman est un succès énorme, un best-seller, comme on dit en bon français. Et c'est là qu'on comprend, ou ce que les gens vont commencer à comprendre, ce que va apporter Dantec à la littérature, c'est que s'il réclame les frontières parce qu'il voit le drame et les conséquences des invasions, il refuse en tout cas, ou en tout cas pour la littérature, les frontières, le polar, la science-fiction, l'essai, la culture rock, la théologie, le cyberpunk, tout ça doit entrer dans une haine machine. Et donc, il y a une époque où le roman français, aujourd'hui en tout cas, mais ça a commencé début 2000, ou en tout cas après 2001, la vraie fin du siècle, s'enferme dans l'autofiction, les récits de nombril vraiment pas passionnants. Lui, il écrit vite, il écrit grand, il écrit fort, et il veut tout faire entrer dans le roman, les ordinateurs, les réseaux, les guerres, les mutations du corps, mais surtout les mutations de l'esprit. Alors, il est devenu le pape, très rapidement, du cyberpolar français, comme on l'appelle, donc on l'appelle. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, il a pris la littérature de science-fiction au sérieux. Pour lui, ce n'est pas un divertissement secondaire, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire qui permet de parler du présent en l'accélérant, et donc décrit pas seulement le futur, mais révèle notre monde qui est déjà en train de muter. C'est pourquoi il a toujours un coup d'avance. Alors après, Les Racines du Mal, là, il publie un pur roman de science-fiction, Babylon Babies, qui va être adapté à Hollywood par, par Mathieu Kassovitz, qui va être un four total, mais je vous invite à regarder... le making-of, comme on dit,
en bon français,
film,
toujours.
En bon français, le making-of du film qui est diffusé sur YouTube, qui est un véritable chef-d'œuvre. Et là, c'est encore plus hybride. On y trouve, si vous voulez, des mercenaires, des manipulations génétiques, des êtres augmentés, des visions apocalyptiques, et toujours cette notion du bien et du mal, et une dimension un peu mystique qui devient vraiment passionnante. Là, il devient encore accessible, Dantec. C'est un roman qui est pop, qui est spectaculaire, mais qui est encore très romanesque. Et puis vient un tournant majeur. En 1998, il s'exile au Québec. Il quitte la France, il dit « la France est épuisée, elle est étouffée, elle est incapable de voir les nouvelles menaces, donc je me barre à Montréal, qui, comme tout le monde sait à ce moment-là, est encore paisible. » Et il se lance dans une œuvre qui va être plus personnelle et plus radicale encore, mais qui va l'exclure presque définitivement du petit milieu parisien, c'est le Théâtre des Opérations, un journal intime, politique, métaphysique. Il en publie trois. Et je vous conseille vivement de relire le TDO, donc le Théâtre des Opérations numéro 2, sorti en 2000-2001. En fait, on voit que depuis 26 ans, il n'y a rien qui a bougé en France. Et donc, ce journal est central pour comprendre Dantec, parce qu'on y croise Nietzsche, Deleuze, Blois, la Bible, le rock, la physique quantique, l'histoire européenne, les guerres balkaniques, et évidemment le djihad mondial, comme il va l'appeler, sans oublier la critique du communisme. C'est pas un, donc vous l'aurez compris, ce n'est pas un journal classique, c'est un laboratoire intérieur fascinant, parfois lisible, mais toujours incandescent. Et donc, à partir des années 2000, là, il va devenir une espèce de personnage public, à la fois attirant et repoussant pour le milieu, blouson de cuir, lunettes noires, ton de prophète punk, il y a quelque chose d'une rockstar littéraire, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on va découvrir qu'on aura créé seulement deux rockstars littéraires en France, Houellebecq et Dantec. D'ailleurs, Houellebecq et Dantec qui vont se lier d'amitié. Et bref... il devient cette espèce de mystère écrivain fascinant, repoussant, à différentes interventions télé, Jean-François Kahn comme Bayrou, le traitant de fasciste, qui est, comme quoi l'insulte était déjà ancienne. Et Houellebecq insiste sur ce point, c'est qu'en fait, il dit, Dantec, si on enlève tout le côté théâtral de la télé et qu'on repart dans son œuvre, il montre que la science-fiction peut être une œuvre littéralement politique, et un espace mental où se produisent des mutations, et notamment les mutations spirituelles. Ce n'est pas que biologique, ce n'est pas que technologique, c'est aussi spirituel. Et d'ailleurs, il fera une conversion 2000-2001, il achèvera sa conversion, et on le voit dans son livre intime, dans son TDO, il commence par Nietzsche et il finit avec le Christ, qui est assez, assez intéressant. 2004, il y a une nouvelle affaire médiatique, et là, il est exclu définitivement du milieu. Il quitte Gallimard, rejoint Balmichel, puis sa trajectoire devient encore plus chaotique. Et plus elle devient chaotique, plus ses livres deviennent difficiles. Il va publier Villa Vortex, Renjonction, Métacortex, bref, des titres toujours un peu étonnants. Il pousse toujours plus loin l'expérimentation. Alors, pour ses admirateurs, ses fans, c'est la grande aventure métaphysique. Pour les autres, c'est là à ce moment où il se perd un peu. Et donc, sa fin de vie devient assez triste, évidemment, diminué physiquement. Bah, il meurt, comme je le rappelais, à Montréal, de vieillesse à 57 ans. Alors, qu'est-ce qui reste de lui? Bah, son œuvre immense, mais surtout... c'est peut-être l'un des derniers écrivains français à croire que le roman pouvait tout absorber, le polar, la science, la guerre, le rock, le Christ, et non pas en faire un message bien rangé. Et il serait peut-être temps de faire sortir définitivement ce punk prophète et écrivain maudit du purgatoire, parce que son œuvre demeure évidemment puissante, mais surtout d'une actualité plus brûlante que jamais.
Merci beaucoup Arthur de Vatrigan, restez avec nous pour reparler de Duralex. Et en attendant, c'est le moment, chers auditeurs, de vous rappeler que, évidemment, si on a envie d'entendre parler Arthur de Vatrigan de Dantec et Joseph Tounel de Duralex, eh ben, il faut venir sur Radio Courtoisie, et Radio Courtoisie a besoin de vous.
Nous avons besoin de votre soutien financier. Vous pouvez nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et également adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016 Paris. Une bonne façon de prendre part au combat des idées, tout simplement.
Eh bien, merci beaucoup Arnaud, et nous revenons donc à Duralex.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Alors, merci Laurent Izard, merci Arthur, merci Joseph Touvenel. On a commencé par parler de Duralex et de sa situation financière. Je dois d'ailleurs tous les chiffres que j'ai cités à un excellent article de La République du Centre. Voilà, la presse quotidienne régionale fait un très bon travail. Et il y a dans cette histoire de Duralex deux choses. La première, que vous avez souligné, Laurent Izard, Joseph Touvenel, le fait qu'il y a une concurrence internationale contre laquelle les petites entreprises françaises ne peuvent rien, et la longue succession des échecs de Duralex à travers ses repreneurs, à travers son manque d'innovation, à travers son incapacité à adapter son outil industriel, vient bien de là. Mais il y a aussi dans chez Duralex une espèce de symbole de la gauche qui, en fait, prétend tout à la fois être en faveur de l'Union européenne, mais pour des entreprises françaises, contre le capital, mais au profit du travailleur qui doit posséder son outil de production, mais en même temps pour que l'État subventionne toutes les entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de contradiction économique au sein de la gauche française ?
Eh ben ça, c'est pas nouveau. C'est toute l'histoire de la gauche. Alors, on peut remonter.
Je parle à quelqu'un qui a dirigé la CFDT ou presque. CFTC, pardon.
C'est toute la contradiction. Par exemple, moi, je pense aujourd'hui aux 60% des salariés de Duralex qui sont devenus actionnaires de cette SCOP. C'est-à-dire qu'ils sont devenus de petits capitalistes, mais qui vont perdre leur argent, parce qu'il y a des gens qui les ont entraînés. C'est exactement ça, la gauche. On entraîne des gens pour aller droit dans le mur, et ensuite on s'en lave les mains en disant « mais tout ça, c'est de la faute aux autres ». Moi, je pense à ces salariés, je pense à ces travailleurs. La valeur travail, c'est pas neutre. Et la droite ne la défend pas, ne l'a pas défendue, et même crache dessus ce mépris qu'on a pour le monde ouvrier. Qui, à droite, prend la défense de ces 60% de petits actionnaires, alors qu'on nous dit que l'actionnariat, c'est quelque chose de magnifique ? J'entends pas une voix. C'est-à-dire que l'humain est important. Le monde économique doit être au service de l'humain. Et ça, c'est oublié. Et la gauche surfe là-dessus. Surfe là-dessus en méprisant l'humain. C'est-à-dire que ces gens qui donnent des conseils sont évidemment pas ceux qui sont les manches relevées au boulot. Ils emmènent les salariés du Duralex dans le mur depuis des décennies. La concurrence internationale, la mondialisation heureuse qu'ils nous ont vantée, qu'ils nous ont amenée, qu'ils nous ont programmée, qu'ils ont mis en place, que ce soit au niveau international ou au niveau européen. C'est de ça dont souffrent ces salariés. C'est pour ça qu'ils vont perdre leur emploi. C'est pour ça que des milliers de salariés en France perdent leur emploi. Mais pourquoi ? Je reviens à ce que je disais peut-être au début de l'émission. Quelle notion a-t-il de la nation, de ce qui nous fait une vie en commun, l'attachement à un peuple divers et l'attachement à un territoire ? Si on n'a pas cet attachement, on bâtit sur du vent. On amène les gens dans le mur. Si on a cet attachement, alors on a aussi une vision respectueuse de l'humain et une vision à long terme. Ça veut dire que je ne suis plus matérialiste, mais que je considère qu'il y a d'autres intérêts que les intérêts matériels, que la vision matérielle et la construction matérielle est importante, mais elle est au service d'autre chose. Elle est au service du développement humain intégral. Mais quand on dit développement humain intégral, pour ceux qui comprennent l'expression, ça devient quasiment un gros mot aujourd'hui. Et pour la gauche, ça a toujours été un gros mot, puisque l'être humain n'est que matière. On a eu avec l'exemple d'Arthur de Vatrigan tout à l'heure, qui nous parlait des communistes. Les communistes, une partie d'entre eux ont fait une œuvre sociale réelle, ou en tout cas avaient un intérêt social réel. Mais ils ont été trompés par le marxisme, ils ont été trompés par la gauche, ils ont été trompés parce qu'ils ont refusé de voir que dans l'être humain, il y a la dimension matérielle et spirituelle. Et si j'abandonne la dimension spirituelle, comme sait très bien le faire aussi l'hypercapitalisme, Alors l'être humain n'a plus qu'une dimension de production et de consommation. Et pourquoi s'ennuyer à maintenir des outils de travail en France si on peut produire moins cher ailleurs? Je vais prendre un exemple. On parlait beaucoup de la Chine, de la concurrence chinoise pour Duralex à juste titre. Des voitures électriques. Qui se soucie des 40 000 enfants qui, à l'heure où nous parlons ce matin, marnent au Congo dans les mines de lithium pour faire fonctionner les batteries des voitures électriques de nos bobos? Tout le monde s'en fout, y compris la gauche. Alors qu'il y a 40 000 gamins aujourd'hui au Congo qui, au lieu d'être à l'école, bossent dans des conditions abominables pour extraire le lithium des qui va servir dans les batteries électriques. Qui défend? Ni la droite ni la gauche.
Arthur de Vatrigan, donc, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire Duralex, et que pensez-vous d'abord de l'affaire Duralex, et ensuite que pensez-vous de la manière dont la gauche s'est emparée de ce symbole?
C'est une histoire vraiment tragique, parce que je vous avoue que l'année dernière, je m'étais dit « Ah, il va se passer quelque chose avec cette espèce de nouveaux actionnariats, petits actionnariats français qui, parce qu'ils ont les souvenirs de leurs petits verres de cantine, d'enfants, ont investi 900, 1000, 2000 euros et ont réussi à remonter un capital. Je m'étais dit, c'est une initiative intéressante et ça va peut-être donner des idées à d'autres. Et bah, malheureusement, c'est un échec pour toutes les raisons que Joseph a brillamment expliquées. Alors, vous savez, moi, pour savoir où on va et ce qu'il faut penser de bien, de beau, de vrai, j'écoute Emmanuel Macron.
Ah, merci.
Emmanuel Macron a quand même expliqué il y a 5 jours, parce qu'on a l'affaire Duralex et en même temps, on a l'affaire Chousse France. C'est quand même assez intéressant et assez révélateur. Emmanuel Macron a expliqué, évidemment, et moi je crois notre bon président, qu'on a un grand pays industriel et qui ne supporte pas le déficitisme qu'on propage à longueur de temps. Bon, l'affaire Duralex lui arrive en pleine tronche, malheureusement, mais je crois qu'il s'en fout un peu. Mais c'est ce que racontait Joseph sur la valeur travail et le capital déconnecté. Si on prend Chousse France, c'est assez révélateur. Emmanuel Macron, très fier, annonce 93 milliards d'investissements pour 15 000 emplois. Faites un ratio. 93 milliards d'investissements, 15 000 emplois, ça veut dire 6 millions d'euros d'investissement par emploi. Alors, je ne suis pas économiste, je ne suis pas chef d'entreprise, mais bizarre, ça me paraît, l'écart me paraît assez étonnant.
Alors, Laurent Izard, dans cette affaire Duralex, et effectivement dans le Chousse France qui arrive au même moment, rappelons donc Chousse France, un grand barnum qui en est à sa 9e édition, et où Emmanuel Macron tente de convaincre le monde entier, et singulièrement la France, qu'il est un excellent président qui réussit à réindustrialiser la France, parce qu'il a des dizaines de milliards qui sont censés se déverser sur la France, sans qu'il y ait aucun contrôle du caractère effectif des promesses qui sont faites, ni de la durabilité de ces investissements. On sait au contraire, par exemple, avec Carbone à Fos, qui a participé 3 fois à Chousse France, que ce n'est pas parce qu'on dit qu'on va faire des choses qu'elles sont réellement faites, puisque Carbone a décidé finalement de ne pas construire sa gigafactory à Fos. Donc non seulement Duralex est à la peine en redressement judiciaire, mais Michelin, donc équipementier mondial, a annoncé la fermeture d'usines en France. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a comme ça des choses emblématiques, comme dirait Roland Lescure, le ministre de l'économie, et qu'à côté, il y a une réalité qui est totalement différente?
La réalité, c'est qu'en 2025, comme en 2024, il y a eu davantage de fermetures d'usines que de création d'usines nouvelles. C'est ça la réalité. Alors, le sommet de Chousse France, c'est intéressant. Le chiffre qui a été annoncé, 93 milliards, c'est un chiffre très important. Il s'agit principalement d'investissements dans les systèmes de gestion de données, data cloud, dans l'intelligence artificielle. Et effectivement, ce sont des investissements qui sont peu créateurs d'emplois. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que ce chiffre de 93 milliards, si vous voulez, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est une agrégation un peu factice de différents éléments. Dans ces 93 milliards, il y a déjà des investissements qui étaient actés bien avant le sommet de Chousse France.
Il fait le coup à chaque sommet, en fait, d'agréger des promesses antérieures.
Oui, alors des promesses antérieures ou des promesses qui sont actées, d'autres qui sont simplement des engagements, je dirais, moraux, mais sans aucun contrat juridiquement scellé, si vous voulez. Alors, pour moi, si vous voulez, Chousse France, c'est avant tout une opération de communication. Voilà. Il y a un effort qui est réel, il faut le reconnaître, mais au regard, si vous voulez, du mouvement global de désindustrialisation de notre pays, eh bien, c'est une goutte d'eau dans une mer agitée.
Une goutte d'eau dans une mer agitée, c'est exactement ça. Et vous parliez tout à l'heure de valeur travail, Arthur de Vatrigan, en ayant pioché le mot dans ce que disait Joseph Touvenel. Ben justement, Joseph Touvenel, reprécisez-nous ce qu'est pour vous la valeur travail.
Oui, parce
on a l'impression que ce n'est pas exactement marxiste.
La valeur travail dont on nous parle le plus souvent, c'est juste un échange économique entre une force de travail, une force intellectuelle et une rémunération. Ce n'est pas ça du tout. Enfin, ça, c'est pour les matérialistes. Pour le chrétien que je suis, travailler, c'est participer à l'œuvre commune. Et donc, c'est déjà, si je suis français, avoir le sens d'une œuvre commune, d'une œuvre que nous faisons ensemble. C'est-à-dire, c'est l'idée de nation derrière. Non seulement je participe à l'œuvre commune, par mon travail, je me réalise, je me grandis. C'est-à-dire que je dépasse véritablement ma propre valeur travail pour me grandir. Et même, je suis co-créateur. Je participe à la création et à l'évolution de la création. Vous voyez combien est élevée la valeur travail ? Qui nous en parle ? Qui va dans les classes, dans les facultés, dire quand vous allez travailler, ça va être, vous allez participer à l'œuvre commune parce qu'on a un destin commun, parce que Français, vous profitez du travail, du labeur, du sacrifice, parfois et même souvent, des générations précédentes. Votre devoir, c'est de prendre ce travail, de l'améliorer pour le laisser aux générations suivantes. Mais personne ne nous en parle, on est dans l'immédiateté, il faut faire du fric tout de suite, il faut combattre les méchants exploiteurs capitalistes, alors que celui qui a un capital, tant mieux. Moi, mon boulot de syndicaliste, c'était de faire en sorte que chaque salarié ait un maximum de capital. Mais que fait-on du capital ? Est-ce qu'on le met au service, justement, du bien commun et de la valeur travail ? Et là, c'est tout à fait positif. Tant mieux s'il y a des gens très riches qui font des très bonnes choses avec leur argent. Et l'autre question, ou alors je peux être destructeur. Je pense à un certain nombre de grandes fortunes de gauche qui détruisent notre société avec leur pognon. Et l'autre question, c'est comment j'ai fait ce capital ? Est-ce que je l'ai fait honnêtement ? Ça peut être par héritage, et l'héritage, c'est honnête, même si une partie de la gauche hurle contre l'héritage. Bah, très bien, si j'hérite, c'est de la transmission, parfait. Par mon travail, par mon labeur, parfait, ou est-ce que j'ai fait de l'argent en exploitant les autres, en mentant, comme ça se passe beaucoup dans le monde économique, où il y a beaucoup d'exploitation quand même, il faut en avoir conscience, et il y a aussi beaucoup de mensonges, de manœuvres, de tromperies dans le monde économique. Voilà, toute la question est là, et comment je fais apparaître cette valeur travail qui touche le plus mal. Je vais terminer peut-être par là, celui qui vous parle. Il a commencé à travailler à l'âge de 16 ans et demi comme manœuvre chez un horticulteur. J'ai fait plusieurs choses, notamment pendant 2 ans, j'ai été homme de ménage, celui qui vient dans les entreprises tard le soir, tôt le matin, vider les poubelles, laver les toilettes. Je participais à une œuvre. Je savais que même mon travail modeste, si je le faisais bien, c'était plus agréable pour ceux qui venaient travailler derrière dans la journée. Donc, à tout point de vue, à tout moment, même la tâche la plus humble peut être une participation à une œuvre. Quelle femme ou homme politique nous parle réellement du travail aujourd'hui ? Personne ou quasiment personne.
Merci Joseph Touvenel. Laurent Izard, à vous le mot de la fin, en 1 minute et 32 secondes. Cette valeur travail, est-ce que c'est là aussi quelque chose qui manque en fait à la vision économique de nos dirigeants, obsédés par le montant des investissements et les grands ensembles avec qui on peut facilement discuter dans les ministères ?
Tout à fait. Moi, je partage totalement le point de vue de M. Touvenel. C'est d'ailleurs l'objet de mon livre « À la sueur de ton front ». Je pense que nous devons absolument tout faire pour sauvegarder notre modèle économique et social français, qui présente un certain nombre de défauts, on est bien d'accord, mais qui en réalité est un élément extrêmement important pour le développement humain intégral, si vous voulez. Or, aujourd'hui, nos salariés sont mis en concurrence avec des salariés d'autres pays qui, eux, sont soumis à des règles totalement différentes, si vous voulez. Or, ces règles différentes, effectivement, permettent à des entreprises étrangères de nous dominer. C'est là qu'il faut agir, si vous voulez. Il faut préserver notre modèle. Je pense qu'il faut, pour cela... adopter des règles qui conduisent à protéger notre marché, qui conduisent à protéger nos entreprises. Si l'on ne sort pas de ce système mondialiste pervers, parce qu'on est en réalité dans une véritable guerre économique où tous les coups sont permis, eh bien nous ne pourrons pas sauver notre modèle économique et notre modèle social.
Merci beaucoup Laurent Izard, merci beaucoup Arthur de Vatrigan, merci Joseph Touvenel. Voilà, donc c'était l'affaire Duralex et on va bien voir où ça va nous mener, mais surtout comment la politique économique française va-t-elle pouvoir être réorientée.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Sèze.
Voilà, dans un instant, la chronique d'Alice Cordier et débattons-en avec Abel Quentin, mais tout de suite, le rappel des titres avec Alice Meunier.
Chers auditeurs, hier au Sénat, revers cinglant pour le gouvernement sur la loi de programmation militaire, les sénateurs ont rejeté l'article central qui prévoyait seulement 36 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2030. Les Républicains réclamaient 50 milliards et ont finalement torpillé le texte minimaliste. À Saint-Gall, en Suisse, la communauté albanaise El Hidage veut construire une mosquée de 1000 mètres carrés en plein cœur de la cité historique marquée par son héritage chrétien. Mais les députés de l'UDC, le parti nationaliste et populiste suisse, montent au créneau sans détour et dénoncent une islamisation rampante. La Commission européenne a dévoilé aujourd'hui son fameux paquet de souveraineté technologique. Objectif affiché est de réduire la dépendance massive de l'Union européenne aux États-Unis et à l'Asie dans le numérique. Et aujourd'hui, nous fêtons Sainte Clotilde, Sainte Vincentine et Sainte Ascagne.
Merci beaucoup.
Ligne droite.
Eh bien, Ligne droite, c'est avec Alice Cordier. Bonjour Alice.
Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Néanmoins, j'ai appris cette nuit quelque chose qui m'a absolument révoltée et que je voulais partager avec vous. Vous savez, le philosophe et intellectuel Jared Taylor a été contrôlé, quasiment arrêté hier soir à Versailles, car il donnait une simple conférence pour le groupe identitaire Les Natifs. La conférence avait été annulée à Paris suite à un arrêté qui avait été pris à 16h par la préfecture de police de Paris, puisque apparemment, ce monsieur pourrait causer des troubles à l'ordre public. Pourtant, la conférence avait suscité quelques réactions, mais plutôt de la France insoumise, notamment du député Thomas Porte, qui avait demandé son interdiction. Thomas Porte demande « le gouvernement Macron applique ». Et c'est ce qu'il s'est pu passer, puisque du coup, la conférence n'a pas pu avoir lieu à Paris, mais du coup, les Natifs avaient trouvé une solution de repli à Versailles, qui malheureusement a été interrompu en pleine conférence où Jared Taylor a été contrôlé par la police et on lui a demandé d'arrêter sa conférence. Je trouve que les images qui sont sorties, notamment les vidéos, sont absolument scandaleuses. C'est une atteinte à la liberté d'expression comme on en a rarement vu en France. Nous savons aujourd'hui, j'ai bon souvenir de savoir que dans une université du sud de la France, un ancien militant d'Action Directe qui avait d'ailleurs participé à un meurtre, souvenez-vous, hein, le meurtre notamment d'un officier et d'un patron, eh bien, avait pu donner une conférence. Il me semble que c'était auprès d'un syndicat d'extrême gauche, hein, sûrement pas de droite, vous vous en doutez. Et visiblement, cela n'avait pas suscité de telles polémiques. On ne lui avait pas interdit, il n'avait pas eu d'atteinte à sa liberté d'expression. Par contre, quand ce sont les Natifs qui organisent une conférence à Versailles, eh bien là, par contre, on interrompt cette conférence et on a un contrôle policier extrêmement ferme. Et c'est vrai que c'est assez fou. Quand on sait ce qu'il se passe en ce moment, et je pense notamment à ce que nous avons appris récemment avec le meurtre de ce pauvre garçon, Henry Nowak, en Grande-Bretagne, et qu'on a appris après cela que après la vidéo de son meurtre qui a été diffusée et relayée en masse sur les réseaux sociaux, le secrétaire d'État à l'intérieur, Chris Philippe, a demandé le retrait d'un document policier consacré à l'antiracisme. Ce texte encourageait les policiers à traiter les personnes différemment en fonction de leur couleur de peau. C'est ce qui visiblement est arrivé au pauvre et au jeune Henry Nowak, qui a été ligoté, arrêté par la police alors qu'il était en train d'agoniser, de se vider de son sang, et que les policiers n'ont même pas jugé bon de vérifier s'il ne s'était pas fait poignarder, contrairement à ce qu'il disait. Je trouve que c'est assez révélateur d'un sentiment, d'une véritable riposte qui se joue en ce moment en Europe et en Grande-Bretagne, mais également parfois, ça nous vient évidemment des États-Unis, où on voit de plus en plus une répression sans faille quand il s'agit évidemment de militants de droite, mais à côté de ça, un laxisme évidemment quand il s'agit des racailles, puisqu'on a vu les scènes évidemment d'émeutes qui nous ont évidemment terrorisés tout le long de ces derniers jours, et qui là, visiblement, n'ont pas donné lieu à quelque chose de bien grave, puisqu'il n'y a eu quasiment aucun placement en détention hein, pour ces émeutiers qui pourtant ont parfois agressé sexuellement des femmes, pillé des magasins et agressé des policiers. Là, par contre, il n'y a pas de répression. Quand c'est Jared Taylor qui, dans une petite salle de Versailles, vient donner une conférence, eh bien là, par contre, il y a du monde de la part du gouvernement.
Eh bien, merci beaucoup à Alice Cordier d'avoir souligné ce deux poids, deux mesures. Merci et à la semaine prochaine.
Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie ? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sicot en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité.
Ligne droite, débattons-en.
Et débattons-en, ce sera l'occasion de rencontrer l'écrivain Abel Quentin pour Sanctuaire, un livre publié aux éditions de l'Observatoire il y a quelques semaines et qui nous parle d'intelligence artificielle. C'est un pamphlet très bien écrit, très bien informé, très bien pensé. Et je vais vous donner tout de suite un extrait devant Abel Quentin qui est en studio. Michel Super est un esthète. Il m'écoute poliment, mais il n'est pas difficile de traduire son regard agacé. Le rejet de l'IA générative est la marque des attardés pouilleux et bas du front, incapables d'apprécier ce qui est une des plus grandes inventions de l'histoire de l'humanité. Un esprit délicat devrait prendre un pas de recul et demeurer quelque temps silencieux devant le chef-d'œuvre avant de le commenter. Parler morale et politique face à la merveille, mais quelle vulgarité. Abel Quentin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez inventé ce personnage de Michel Super qui commence à tester l'intelligence artificielle en lui demandant une recette de tarte à la quiche parce que, en fait, vous êtes exaspéré par le discours sur l'IA qui est envahissant et surtout qui suppose qu'on accepte l'IA comme si c'était quelque chose d'inévitable.
Oui, tout à fait. C'est un discours omniprésent, hégémonique, qui est un discours d'hypnotisé. C'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre. Ce qui se présente comme une célébration d'une merveille technologique, de la machine des machines, c'est en réalité non-pensée. C'est-à-dire l'idée que, comme vous l'avez cité dans cet extrait, il serait presque vulgaire de politiser cette merveille technologique. Or, moi, je dis toute l'admiration intellectuelle dans le livre que j'ai pour les inventeurs de ce qui est en effet une merveille technologique, hein, il faut bien le dire, c'est sans doute pour moi un des accomplissements les plus impressionnants du génie humain. Le problème, c'est que ses conséquences sur notre civilisation sont dramatique et que là, en revanche, au lieu d'une merveille, au lieu de merveille de pensée qu'on pourrait attendre d'un certain nombre d'intellectuels pour essayer justement de penser ces conséquences-là, ce qu'on observe, c'est une sorte d'inertie, de résignation, de fatalisme mou. Elle est là. C'est toujours la phrase qu'on entend, c'est l'IA générative est là, donc il faut faire avec, et donc il serait vulgaire, stupide et non constructif de poser la question de sa place dans nos sociétés.
Alors, et cette inertie, cette sidération, cette acceptation passive, vous la retrouvez aussi, par exemple, chez Gunther Anders, donc l'un des penseurs, justement, de la technologie, de cette industrialisation devenue folle. Je résume évidemment très mal la pensée de Gunther Anders, mais quand même, qui parlait de la manière dont l'apocalypse promise, par exemple, par l'énergie atomique, est justement, et curieusement, et presque paradoxalement, l'un des facteurs de son acceptation. Vous le citez, de par son immensité, donc la menace nucléaire demande trop à notre capacité limitée de compréhension, elle ne tient pas en elle, elle l'excède, elle ne se laisse pas inscrire dans les dispositions de l'individu ou de la société, bref, elle n'est pas enregistrée comme un objet existant. Voilà, c'est tellement énorme qu'en fait on passe à côté.
Alors c'est vrai, Gunther Anders dit ça dans le Temps de la fin, qui est un magnifique livre, je crois, de 1961, mais je dis aussi dans ce passage-là que on est là face à un mal d'une autre nature. Le risque d'holocauste nucléaire est ce que j'appelle un mal en technicolor, quelque chose de très spectaculaire, de tellement énorme, en effet, qu'on est dans cet état de sidération qu'on n'arrive pas à le penser. L'IA générative, d'une certaine façon, est presque l'inverse, le miroir inversé de ce mal en technicolor, puisque l'IA générative, c'est cet outil du quotidien, ce compagnon, cet objet technologique qui a une apparence très bénigne, très inoffensive, et qui donc est davantage une technologie qui endort qu'elle ne sidère. C'est-à-dire que pour moi, le pendant dans l'intelligence artificielle de l'arme nucléaire, ce serait plutôt cette fameuse super intelligence artificielle qui serait le stade que rêve un certain nombre de gourous de la Silicon Valley d'une intelligence artificielle générale. On ne sait pas si elle peut être atteinte, certains disent que c'est de toute façon une supercherie, mais voilà, l'IA générative, c'est quelque chose de très différent, c'est quelque chose qui est qui a une apparence inoffensive.
Alors, elle a une apparence inoffensive, mais vous revenez, et d'ailleurs ça fait partie des choses très intéressantes de votre livre, sur toutes les déclarations du patron d'OpenAI, de tous ceux qui sont, ou bien même de Le Cam, le français qui est en train d'inventer une intelligence encore supérieure à toutes les intelligences déjà existantes, et à chaque fois, les gens leur posent des questions un peu naïves, est-ce qu'on va pas tous mourir, et au fait, quand on se retrouvera tous sans boulot, mais tout ça a un coût énergétique foudroyant, et ils vous répondent, oui, peut-être, sans doute, ça m'est égal. En fait, ils n'ont aucune pensée politique de ce qu'ils mettent en place. Ils ont une intelligence qui leur permet de concevoir une merveille technologique. Ils savent que cette merveille technologique va ravager nos sociétés ou au minimum la bouleverser de fond en comble. Ils savent que des millions de personnes risquent de ne plus avoir d'emploi. Ils disent peut-être qu'effectivement ce sera l'apocalypse. On va peut-être vers un futur extrêmement noir, mais ce serait vraiment dommage de ne pas tenter le coup. Et donc on se dit, mais vraiment, degré zéro de la réflexion politique.
Oui, il y a une irresponsabilité totale. Alors, il y a deux choses. Il y a, c'est vrai, aussi une pensée politique qui est dont on parle beaucoup, à raison, qui vont être les lumières sombres de Nick Land, en tout cas toute cette pensée qui d'ailleurs a partie liée avec l'extrême droite américaine, et qui a des têtes de gondole qu'on connaît bien, Peter Thiel, etc., qui eux, on pourrait dire, dans une certaine façon, dans une certaine manière, ont un projet de société. Mais il y a aussi énormément d'autres acteurs, et je pense, et je donne l'exemple d'Arthur Mensch en France, de Yann LeCun, on pourrait parler de Zuckerberg et de Sam Altman d'OpenAI, qui eux sont dans une forme de non-pensée. C'est-à-dire que les conséquences qui vont être absolument gigantesques des technologies qu'ils déploient de façon massive ne les intéressent pas. Ça, ils laissent ça, si vous voulez, à la vieille caravane antédiluvienne de la politique qu'ils méprisent profondément. Et eux s'en tiennent là à dire, voilà, c'est ce que dit Sam Altman, je cite des passages ahurissants où il dit, voilà, nos produits sont extraordinaires. Et lorsqu'une intervieweuse ose timidement lui demander, mais pour le col blanc, pour ces millions de personnes qui vont perdre leur emploi, eh bien là, c'est des platitudes, le vide, rien.
Oui, les révolutions industrielles ont toujours eu des effets désastreux à court terme. Là, au contraire, et même c'est rien, et c'est même revendiqué. Vous parlez de Peter Thiel, et justement, lui explique que Le but de l'humanité est d'avancer vite. Il y a un accélérationnisme et que la technologie est en fait quasiment un des facteurs évolutifs de l'humanité et que ralentir l'humanité dans sa course, même quand elle devient folle, ce serait presque un péché. Et donc, on peut courir vers le précipice, mais l'essentiel, c'est d'y aller vite plutôt que de s'arrêter, de prendre le temps de réfléchir.
Oui, parfaitement. C'est-à-dire que ce que Jacques Ellul appelait ce chemin sans étoile, c'est une course vers le néant. Alors, quand elle est formulée par Peter Thiel, c'est très impressionnant puisque vraiment lui le revendique comme une sorte d'amour de la vitesse en tant que telle. Mais je dirais qu'il est présent, cette course au néant, elle est présente aussi de façon très gazeuse dans tous nos discours en Europe, que vous allez dans ces discours très émollients que vous allez entendre dans les journaux, sur les télés, sur les ondes, etc., qui consiste à dire en fait la seule chose qui est importante, c'est de rattraper les États-Unis et la Chine. Et moi, ce que j'essaye de dire dans ce livre, c'est que rattraper la Chine et les États-Unis, ça ne fait pas un projet de société. C'est-à-dire que le rattrapage, rattraper qui et pourquoi? Voilà, ça c'est les questions qu'on pourrait se poser. Pourquoi est-ce qu'on veut rattraper la Chine et les États-Unis? Faut-il les rattraper à tout prix d'ailleurs? Je veux dire, si demain la Chine généralise le clonage humain thérapeutique, est-ce qu'il faudra qu'on le fasse aussi? Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, être un espace politique, une nation politique, c'est quand même essayer de reprendre le contrôle et se poser la question de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Avant même de se poser la question de savoir si c'est possible, c'est de se poser cette première question, qu'est-ce qu'on veut ?
Alors, et justement, on a l'impression que, à travers les déclarations d'Emmanuel Macron, à travers les déclarations des différents ministres français, que ce qu'on veut, c'est faire en sorte que la France prenne la tête de la course à l'intelligence artificielle, que grâce à tout ce que la France a pu développer en matière de réflexion informatique et mathématique, le plan calcul de Gaulle, l'INRA, quelques chercheurs. En fait, on a une électricité pas chère, on a des gens extrêmement intelligents. Choose France est en train de nous beurré de centres de données des Pyrénées jusqu'à Dunkerque. Donc allons-y, devenons les champions européens de l'intelligence artificielle. Et là aussi, aucune réflexion sur la société à laquelle on va aboutir.
Bien, moi, je trouve que le retard gigantesque de l'Europe, qui a un nain dans sa puissance de calcul, devrait être au contraire l'occasion de se poser la question. De toute façon, ce retard est irrattrapable. Et moi, j'ai envie de dire de façon peut-être provocatrice, je suis très heureux d'être dans un continent qui est en retard, parce qu'il a la possibilité, du coup, de se poser la question de savoir si la vraie souveraineté, ce ne serait pas de dépendre moins de cette technologie, plutôt que d'essayer absolument d'avoir un acteur européen. Et ça ne veut pas dire être contre l'intelligence artificielle, ça veut dire peut-être, par exemple, avec la puissance de calcul existante, plutôt que de l'augmenter, essayer par exemple de prioriser et de développer des intelligences artificielles étroites qui sont là pour faire de la recherche médicale, pour accomplir des tâches spécifiques, pour faire des vrais progrès, plutôt que l'utiliser au détriment d'autres secteurs stratégiques, au détriment d'autres secteurs qui auront besoin d'une énergie décarbonée, plutôt que de l'utiliser pour abrutir massivement une population avec une IA générative en bâtie sur des grands modèles de langage dont l'utilité sociale est absolument sujette à caution et à mon avis même parfaitement nulle.
Et même dans votre livre, elle n'est pas simplement sujette à caution. Vous dites qu'on a déjà documenté les effets pervers de cette IA générative sur les capacités d'apprentissage, les capacités de transmission.
Elle est parfaitement documentée. Je dirais que dans cette situation extrêmement grave qui est la nôtre, c'est une chance qu'on a, c'est que par rapport aux réseaux sociaux pour lesquels l'impact négatif a été documenté peut-être plus tardivement, là, on a déjà des matériaux scientifiques, on a déjà un certain nombre d'études, j'en cite dans mon livre, je cite des études du MIT Lab qui datent de l'année dernière sur une étude de mars 2025 sur les risques d'addiction énormes auprès des populations les plus fragiles, une étude de juillet qui a fait grand bruit sur la fameuse dette cognitive, le risque d'atrophie cérébrale parce qu'on en est là, tout ça c'est documenté. Donc si vous voulez, à l'aune de ces effets qui sont catastrophiques, lorsqu'on regarde le discours de notre ministre de l'IA numérique, de Macron, avec son plug baby plug, eh bien on se rend compte que c'est un discours qui est suicidaire, qui est un discours de régression civilisationnelle et qui sera un discours qui sera jugé de façon extrêmement dure par les historiens du futur. Et je pense qu'il est temps de se réveiller.
Dans votre livre, et on reviendra sur cette chance paradoxale d'être un peu à côté de la plaque pour le moment, pour ce qui est des investissements, des capacités financières, etc. Il y a la dénonciation de ce rôle de l'expert qui, parce qu'il a une connaissance technique, en devient un prescripteur social. Ouais. Et en fait, cette bascule de la connaissance technique à la prescription sociale est la chose la plus terrible.
Oui, c'est un truc que j'ai. C'est pour ça que moi je l'ai écrit très librement ce livre, en me disant je suis écrivain, je suis pas un expert en IA, etc. Je vais me faire évidemment injurier à ce titre, mais je ne vois pas pourquoi je serais pas légitime à m'exprimer. Parce que l'expert en intelligence artificielle s'exprime très largement sur tous les sujets aujourd'hui, nous explique ce qu'il faut penser sur l'école, nous explique pourquoi un art, une littérature hybridée serait géniale. Et c'est-à-dire qu'il sort très largement de son champ d'expertise en permanence et qu'on écoute béatement. Voilà, Yael Nequin nous expliquer que ça va être formidable pour la société. Yael Nequin, c'est évidemment la personne
la plus chercheur français,
grand chercheur français, qui est un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle générative. Yael Nequin, il est évidemment le plus autorisé pour décrire le fonctionnement de l'IA générative. Et moi, je n'ai aucune prétention là-dessus. C'est pas un livre dans lequel vous allez apprendre énormément de choses d'un point de vue technique. En revanche, je considère que Yael Nequin n'est pas plus légitime que mon voisin, mon boulanger, moi-même, pour dire ce que doit être une société, ce qui est une société désirable. Je ne pense pas qu'il s'intéresse énormément à la crise climatique, je ne pense pas qu'il s'intéresse énormément à l'école, et pourtant, vous allez avoir, je te cite, une matinale de radio où le matinalier est absolument en pamoison devant Yael Nequin qui assène ses vérités. Et il faut sortir de cette servilité-là. Moi, je suis écrivain et j'estime que je peux parfaitement m'exprimer sur ce sujet.
Vous n'êtes pas juste écrivain, parce que là, vous avez mobilisé non seulement un savoir de véritable journaliste scientifique sur comprendre quelle est aujourd'hui la position de l'intelligence artificielle générative, vous avez aussi apporté toutes ces réflexions au Gunther Anders, Jacques Ellul, pour montrer qu'il y a des gens qui ont pensé la technologie, qui ne sont pas technophobes par principe, mais qui sont juste inquiet de ce qu'une technologie en fait n'est jamais neutre. Ouais. Et d'ailleurs, vous citez très justement Jacques Ellul en montrant que ceux qui prétendent dire que l'intelligence artificielle n'est qu'un outil et qu'il s'agit juste d'en prôner le bon usage, en fait se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, si je peux me permettre, parce que aucune technologie n'est neutre et que le bon usage en fait est un leurre.
Oui, parfaitement. Il remplace la prétendue neutralité par l'ambivalence, Jacques Ellul dit. Une technologie n'est pas ni bonne ni mauvaise, elle est bonne et mauvaise. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas retrancher les effets secondaires, je dirais, de la technologie. On le voit bien avec l'IA générative. Considérer que l'IA générative n'est pas neutre, c'est par exemple considérer que le pillage des données est constitutif à cette industrie. C'est-à-dire que si vous enlevez le pillage des données, cette industrie n'existe pas.
Pillage des données, c'est la manière dont l'IA générative est entraînée avec des données qui ne lui appartiennent
exactement,
pas.
Exactement, l'IA générative sur les grands publics, pour qu'elle marche, elle a besoin de ne pas payer de droits d'auteur, elle a besoin de se servir dans les catalogues d'éditeurs, de journalistes, etc. Et on le voit bien d'ailleurs, il y avait un côté balai-masque la semaine dernière, quand Arthur Mensch, qui est censément le promoteur d'une IA plus européenne, régulée, etc.
Mistral,
le patron de Mistral, s'est prononcé contre une loi qui défendrait les droits d'auteur en France. Et là-dessus, il y a une forme de cohérence, c'est que le vol de ces données-là fait partie du modèle même du déploiement de cette technologie. Donc imaginez qu'on pourrait avoir par exemple une IA générative vertueuse, enfin c'est une IA générative grand public vertueuse, est une vue de l'esprit, de la même façon que l'illusion anthropomorphique, c'est-à-dire le fait qu'en permanence le risque est que l'utilisateur finissent par oublier qu'il est en train de parler à une machine, est constitutive de cette technologie dans la mesure où elle parle en langage naturel. Donc dire qu'on va avoir une IA générative qui sera respectueuse des droits d'auteur et respectueuse aussi, qui sera non addictive, est à mon sens une illusion complète.
Les dernières données, et d'ailleurs Xavier Van Lien en parlait hier à notre antenne, prouvent au contraire que de plus en plus de gens considèrent l'IA générative comme un ami, un compagnon, un psychologue. Donc, autrement dit, le danger que vous dénoncez est là. Vous avez choisi d'imaginer un personnage, Michel Super, qui est un quinquagénaire satisfait, qu'on sent être capable d'être à l'intérieur du cercle de la raison. Voilà, je pense que Dominique de Villepin fait partie de ses idoles et qui à chaque fois défend le point de vue de bon sens vis-à-vis de cette technologie. Pourquoi être passé par Michel, que vous assaisonnez rapidement et jusqu'à la fin en le présentant en fait comme un crétin satisfait, mais cultivé, mais crétin?
Oui, enfin c'est j'ai l'impression un personnage de notre temps. C'est un ingénieur, il a 52 ans. C'est si vous voulez, c'est la puissance calculante contre c'est-à-dire quelqu'un qui a une grande intelligence, je dirais scientifique, voilà, calculante, c'est le mot qui me vient à l'esprit, mais qui en revanche a presque une forme d'atrophie cérébrale du point de vue de la pensée méditante, la pensée sur l'homme, la pensée éthique. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Pour lui, tout ça, c'est des vieilleries humanistes. C'est voilà, l'homme qui pense qu'il faut prendre les trains en marche sans se poser finalement la question de la direction. Il y a un train, il faut sauter dessus et c'est extraordinaire. Ce que j'essaye de dire, c'est que cette pensée-là qui se présente comme une pensée techno-optimiste, pour moi, est extrêmement ringarde parce qu'elle fleure bon au fond... les années Giscard, elles fleurent bon une sorte de fascination presque enfantine pour le gadget, pour la modernité, et elle ignore totalement la pensée critique qui quand même date déjà de plusieurs décennies et qui a produit une critique à mon avis très éclairante de l'impasse du tout technologique et de l'aphrodisiaque de la croissance.
Des penseurs français ou des chercheurs français plutôt comme Jean-François Jarrys et Jean-Baptiste Fresseau ont parlé des technophobes qui, en fait, sont juste des personnes qui sont attentives à ce que la technologie peut apporter depuis le 19e et qui ont été tout le temps moquées par les Michel Super de l'époque qui ont expliqué que la voiture, c'était génial. Les gens se faisaient écraser sur les routes et on a fini par empuantir le paysage et à goudronner la France. Mais non, c'était pas grave, c'était le progrès. On a effectivement la même chose ici, c'est-à-dire... Puisqu'il y a marqué « progrès » sur la boîte, il faut tout de suite acheter la boîte. Alors que ce n'est pas un progrès.
C'est ça. C'est-à-dire que moi, je considère que mon livre n'est pas technophobe, puisque je dis simplement « prenons technologie par, bien sûr, mais prenons chaque technologie, posons-nous la question. » Bien sûr, il ne s'agit pas de désinventer. Il s'agit de se poser la question pour chaque technologie, quelle doit être sa place dans la société. IA étroite qui permet de guérir le cancer. Très bien, investissons là-dedans. IA générative qui est structurellement aliénante et qui va laminer l'intelligence d'une génération entière, eh bien, construisons des digues. Posons-nous la question de si elle doit être vraiment en libre-service, non rationné auprès de toute la jeunesse. Moi, je suis persuadé que de toute façon, ces réflexions, on y viendra. La question, c'est est-ce qu'on y viendra avec 15 ans de retard, comme ça s'est passé pour les réseaux sociaux, où une loi a fini par être votée, ou est-ce qu'on pourrait éviter une forme de tragique de répétition et anticiper les choses?
Très bien. Dans cette résistance, dans ces digues, il y a évidemment le nom de votre livre, Sanctuaire. Donc, il paraît qu'il y a des clubs ludites qui sont néo-ludites, qui sont créés aux États-Unis, où les gens admettent d'abandonner leur téléphone portable pendant une heure, un jour, un week-end, un samedi, dimanche complet. Vous, dans Sanctuaire, vous proposez comme ça de faire en sorte qu'il y ait des pans entiers, soit de notre temps, soit des territoires, soit des activités qui soient sanctuarisées.
Oui, c'est-à-dire que ce que j'essaie de développer, c'est de dire qu'il y a bien sûr un sujet qui devra être faire l'objet d'une législation, d'une intervention du politique, de la puissance publique. Mais que sans attendre, on peut se poser la question de ce qu'on peut faire ici et maintenant. La première chose que je dis, c'est tout simplement, comme individu, je peux boycotter l'IA générative. On est encore nombreux à ne pas avoir d'obligation, à ne pas être... je dirais, menacé de perdre son emploi à cause d'un non-usage de l'IA générative. Donc, très souvent, on se cache derrière nos petits doigts en disant « Oui, mais c'est comme ça, c'est pas le choix. » Posons-nous la question. Par exemple, voilà, le fameux boomer retraité, est-ce qu'il a besoin de... la course à la compétitivité professionnelle, il est plus dedans, donc est-ce qu'il peut se poser cette question-là de l'usage ou du non-usage? Et ensuite, il y a les sanctuaires, c'est-à-dire au fond, il sera de plus en plus précieux, il est presque vital que l'homme ou la femme dans une société inondée par l'IA générative, puisse entrer dans quelques maisons sûres. Et le sanctuaire, à mon sens, ça peut être un lieu, c'est évidemment la question de l'école. Est-ce que l'école doit être ou non un sanctuaire ? Moi, je pense qu'elle doit l'être, mais ça peut être aussi un événement, un festival, ça peut être un livre, un album qui revendique son origine 100% humaine. C'est d'essayer de sortir d'une sorte de d'isolement, sentiment d'être marginalisé, de revendiquer l'humain avec ses défauts, avec sa lenteur, avec ses imperfections, et de le faire haut et fort.
Bien, merci beaucoup Abel Quintin. Je rappelle Sanctuaire, votre livre publié aux éditions L'Observatoire.
Merci
d'avoir accepté cette émission 100% humaine autour de l'intelligence artificielle.
Merci beaucoup.